RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules aujourd'hui avec le cheminot Bruno Poncet, avec la prof de français Fatima Hibounois, avec le consultant auprès des entreprises Antoine Diers. Il est 11h02, nous sommes ensemble jusqu'à midi, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Avec Rachida Dati, ministre de la Culture, candidate Les Républicains à la mairie de Paris. Bonjour Madame Dati.
Bonjour.
Comment une femme de droite comme vous peut gagner une ville qui, depuis 25 ans, vote à gauche? C'est un pari impossible.
Il m'est rarement arrivé de ne pas gagner des paris impossibles, cher monsieur Truchot, vous le savez. Non, mais là, toutes les études, tous les sondages démontrent quoi? Qu'il y a chez les Parisiens, qu'il y a une envie forte d'alternance. Je ne dis pas pour qui, mais en tous les cas, il y a une forte envie d'alternance aujourd'hui. Et puis, moi, je trouve qu'après 25 ans, c'est assez sain d'avoir une respiration démocratique. L'alternance, c'est sain. Parce que quand vous gardez le pouvoir trop longtemps, au bout d'un moment, en fait, la ville se sclérose. Il n'y a plus de débats et d'échanges avec les habitants. Vous ne parlez à plus personne. Vous vous enfermez. Et je trouve que vous n'avancez plus sur rien. Regardez sur Paris, sur ces dernières années, il n'y a plus d'innovation, moins d'attractivité. On ne peut pas se résoudre à une ville qui est fuie. Enfin, moi, je veux une ville qui attire, pas une ville qu'on fuit. Et le résultat est là, le constat est là. Toutes les études le démontrent aussi et le constatent. C'est plus de 36 000 Parisiens qui ont quitté Paris. 40 000 enfants, qui ont quitté les écoles parisiennes. Vous avez des écoles entières qui ferment au-delà des classes.
Comme dans les campagnes.
Moi, je ne me résous pas à ce que les forces vives d'une ville puissent quitter Paris. Et ils quittent Paris, poussés, évidemment, à quitter Paris, beaucoup par écœurement. Et donc, moi, mon rôle, c'est de refaire de cette ville une ville qui attire, qui innove, qui soit vivante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Pour ça, il faut faire baisser le prix de l'immobilier, il faut faire baisser le prix des loyers. Une ville hors de prix.
Oui, en fait. Alors, d'abord, il y a beaucoup de facteurs qui font que les Parisiens sont écœurés.
Les jeunes puissent se loger facilement.
Oui, mais regardez, c'est une ville, il y a 30% de familles monoparentales. Oui, majoritairement, ce sont des mamans. Tout leur quotidien est compliqué à Paris. Donc, les familles quittent Paris. Moi, je ne me résous pas à ce qu'une ville se vide de ses forces vives. Alors, un des facteurs, vous avez raison, c'est le logement. Vous dites, vous parlez du marché immobilier. Le marché immobilier a été multiplié par 3 sous la gauche. Sous la gauche, multiplié par 3. Ils ont bénéficié...
Donc, il faut construire davantage pour faire baisser les prix.
Attendez. Ils ont bénéficié de cette spéculation. Parce qu'il y a eu une spéculation immobilière. Ils ont touché près de 3 milliards d'euros uniquement en droits de mutation. Parce qu'il y a une dette qui s'alourdit, je le redis, pour une ville comme Paris, c'est 40 ans pour se désendetter. La moyenne pour une collectivité, c'est 12 ans. Donc on a dépassé le seuil d'alerte. C'est une réalité. Pourquoi l'immobilier a fortement augmenté? Parce qu'ils ont raréfié l'offre immobilière. Nous étions, dans les années 2000, quand c'était la droite, 500 000 logements dans le parc locatif privé. Nous en sommes aujourd'hui à moins de 350 000. Pourquoi? Parce que ils ont favorisé cette spéculation immobilière, ils ont bénéficié des droits de mutation, et donc ils ont, pour masquer tout ça, fait une politique de logement social. Aujourd'hui, le logement social...
Il a progressé à Paris.
Oui, il a progressé, ils veulent aller plus loin pour avoir une ville de 40% de logements sociaux. Vous savez combien ça a coûté, le logement social, pour les préemptions sur des immeubles privés? C'est évidemment, ils ont payé plus de 2 milliards, parfois 3 milliards d'euros, ça a coûté sur cette mandature, pour 8 000 logements. Qui est dans le parc social aujourd'hui? La composition du parc social n'est pas, la priorité n'est pas donnée à ceux qui travaillent à Paris ou pour les Parisiens. D'ailleurs, je vous invite à voir la déclaration de M. Béliard, qui était dans l'équipe de M. Grégoire. Il souhaite que le parc social, qui augmente de plus de 40%, le 13e, le 18e, le 19e, le 20e, on est déjà à 45% de logements sociaux. On voit l'état de...
Mais la gauche voudrait qu'il y ait plus de logements sociaux
plus
dans les quartiers
chics
de Paris.
Non, mais ça c'est idéologique. Voilà. Et donc, d'acheter pour 3 milliards d'euros, 8 000 logements sociaux, pour ne pas y loger les gens qui travaillent, ça n'a pas de sens. Monsieur Béliard souhaite que les gens qui n'ont pas de papier puissent accéder au logement social, que les gens qui sont sous OQTF, et j'en ai rencontré dans les foyers d'hébergement d'urgence, et ça on peut en parler, soient éligibles au logement social. Leur critère de priorité, ça n'est pas le travail, c'est la situation. Moi je souhaite que, j'assume que le logement social, la priorité, ça sera la prime au travail. Et relancer le parc locatif privé, parce qu'aujourd'hui, leur parc locatif privé est entravé par l'encadrement des loyers, par l'explosion de la taxe foncière. Et donc, on a tout fait pour que le petit retraité qui a un logement à Paris dans lequel il a investi, pour lui, c'est plus rentable. Donc, il ne loue plus. Donc, la politique du logement à Paris, plus globalement, c'est sérieux. Et il faut y léger les gens qui y travaillent, les gens
qui sont en aussi.
Et la classe moyenne qui t'exclut aujourd'hui du logement social. C'est une réalité.
Mais Rachida Dati, votre adversaire principal, il est socialiste, il s'appelle Emmanuel Grégoire, il a été le premier adjoint d'Anne Hidalgo pendant des années.
En charge de l'urbanisme.
Oui, il s'est fâché avec elle, mais visiblement ça va mieux, puisque Anne Hidalgo, qui ne se représente pas, lui apporte son soutien. C'est un soutien de poids ?
C'est une évidence, il est comptable de ce passif. Il est en charge de l'urbanisme, ils sont co-auteurs de ce bilan et du résultat qu'on a aujourd'hui. Des Parisiens qui quittent Paris, un logement dégradé, un parc social qui n'est pas à la hauteur, une dette de 12 milliards d'euros, et vous parliez, ils sont les chantres de l'écologie. Mais le premier geste écologique, c'est la propreté, d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi, en 2020, j'avais recensé tous les délaissés, toutes les friches pour faire des parcs, des jardins et de la végétalisation en pleine terre. Ces friches, j'ai voulu les recenser là en 2026, je ne les retrouve pas. Pourquoi ? Il y a eu une bétonisation. Et la bétonisation, sous la mandature d'Anne Hidalgo, ils ont bétonné près de 4 millions de mètres carrés. Donc on ne peut pas dire à la fois...
Ils ont fait des pistes cyclables.
Oui, mais...
C'est-à-dire qu'avec vous, au pouvoir, à Paris, c'est le retour de la bagnole ?
Vous disiez une femme de droite.
Je suis dans toutes les caricatures. On me caricature, c'est de l'outrance, voire de l'injure. Je m'en fiche. Moi, j'ai un objectif. Je veux que cette ville revive, que cette ville retrouve son éclat, qu'on puisse y loger, s'y travailler.
Est-ce que c'est le retour de la voiture ?
Il faut une harmonie.
Est-ce que vous rouvrez les voies sur berge en voiture, par exemple ?
Non, les voies sur berge, comme il n'y avait pas assez d'argent, vous avez vu, en fait, ils ont fermé une route. C'est que des aménagements éphémères, complètement dégueulasses, faut dire les choses. Moi, j'emmène ma fille, il y a un mur d'escalade qui n'en est pas un, il y a des palettes de bois qui servent de banc. Il n'y a pas d'aménagement pérenne. Moi, je souhaite que sur ces voies sur berge, nous ayons un grand parc urbain patrimonial. D'accord. Ces voies sur berge sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et vous ne les rendrez pas aux voitures ?
Non, il faut...
Moi, Sarah Knafo veut les rendre aux voitures.
Ce sont des voies sur berge placées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez...
Donc elle prend aussi.
Non, c'est pas ça. Vous pouvez pas être candidat en 15 jours et avoir un projet crédible en 15 jours. Vous ne me prendrez jamais en défaut sur le fond de mes projets, de mes propositions ou de mes actions. Je suis maire d'arrondissement. J'ai expérimenté des choses dans mon arrondissement. J'ai la compétence, j'ai la légitimité. Je vais partout, vous le voyez, je vais partout, je parle avec tout le monde. Je vois les difficultés, y compris avec les gens qui sont pas d'accord
avec moi. Par exemple, le périphérique, il reste à 50 km/h ou on peut rouler un peu plus vite?
Moi, je ne veux pas que Paris soit enfermé dans le périphérique. Il y a des politiques qui iront au-delà du périphérique. Aujourd'hui, Madame Hidalgo et Monsieur Grégoire ne parlent même pas aux maires de la petite couronne. Regardez sur la mobilité. Aujourd'hui, la mobilité, c'est une compétence partagée avec la région. La ville de Paris ne veut pas contribuer à la modernisation, sécurisation des transports. Il faut développer les transports. Comme vous parliez des pistes cyclables, il faut qu'il y ait des cheminements longs au-delà du périph, avec des parkings relais aux portes.
Donc on peut laisser la voiture aux portes de Paris.
Oui, mais le périph, c'est votre compétence ou pas la vitesse sur le périphérique ?
C'est une compétence qui est partagée, mais on peut évidemment...
Est-ce que vous le remettriez à 5 ans ?
Il y a eu une consultation où les Parisiens n'étaient pas d'accord, et Mme Hidalgo a pris une décision à l'encontre de la volonté des Parisiens.
Donc vous reconsulterez les Parisiens.
Oui, et puis avec les collectivités, il y a quand même des gens qui sont un petit peu de l'autre côté du périph'.
D'ailleurs, c'est essentiellement emprunté par des gens qui habitent hors de Paris.
C'est pour ça que la mobilité... Je tiens quand même à préciser une chose. Les Parisiens doivent savoir, il n'y a pas de plan de circulation à Paris. C'est la seule ville de France qui n'a pas de plan de circulation. Bon. D'où le chaos. Voilà. Il faut faire adopter un plan de circulation avec des études d'impact, avec des reports de circulation, avec des rues qui soient ou pistes cyclables ou mixtes. Il faut revoir tout ça avec un plan de circulation adopté, concerté, expertisé.
Fatima Idounoua.
Question. Monsieur Emmanuel Grégoire s'engage à plus aucun enfant ne dormira dans la rue. dès l'hiver 2026. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les enfants qui dorment dans la rue au-delà de cet engagement? Parce que Macron, Emmanuel Macron nous avait dit la même chose. Ça, c'est la première question sur la protection de l'enfance. Et aussi, dans le parascolaire, vous avez vu tous les scandales autour de la pédocriminalité.
Donc,
qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la protection des enfants, qu'ils soient sans abri ou enfants accueillis dans les centres avec ces scandales qu'on a
deux choses à suivre. Rappelez-moi qui est au pouvoir depuis 25 ans à la ville de Paris. J'ai perdu la mémoire. Je voudrais savoir qui est au pouvoir là. Qui a les manettes, qui a le budget.
En tout cas,
je pose juste une question.
La gauche.
Non, monsieur, oui, c'est la gauche. Monsieur Grégoire.
Ouais. Je partais de sa formule pour dire.
Oui.
Vous
il fallait pas gêner. Faut pas se gêner depuis 25 ans.
Ah, oui.
Fallait pas se gêner. 10 milliards de budget pour une ville de 2 millions d'habitants. Vous croyez pas qu'on peut mettre à l'abri ses enfants? Moi, je le fais. Je le fais. Dans le 7e arrondissement, il y a très peu de gens dans des campements.
Voilà. Il y a moins de campements dans le 7e que dans le 18e ou le 19e.
Non, parce que les lieux de fixation, c'est partout, monsieur Marshall. C'est partout. C'est partout.
Je vais vous dire,
l'espace public. Non, mais. Alors attendez. Ils sont au pouvoir depuis 25 ans. L'espace public appartient à qui dans une collectivité? Il appartient à la mairie. L'espace public appartient à la collectivité. Moi, je ne me résous pas que dans ma collectivité, mon espace public soit occupé par des campements. Donc, j'y suis allée. Je suis allée dans le 18e, dans le 19e, à Bastille. Je suis allée partout. C'est comme j'ai fait toutes les portes de Paris. Toutes.
Mais qu'est-ce que vous proposez?
Attendez, justement, je vais vous proposer. Non, mais monsieur Grégoire qui est au pouvoir, qui vient de voter un budget là, en décembre, qui va mettre en œuvre, je vous invite à regarder ce qu'il y a dedans. Sur ces gens à la rue, moi je suis allée voir, je peux vous dire exactement des personnes qui sont à la rue dans les campements. Il y a effectivement des gens qui sont déboutés du droit d'asile, majoritairement. Ce sont évidemment des migrants qui n'ont pas de papier, majoritairement. Ce sont des gens qui sont effectivement, soit sont en transit ou de passage. Attendez, et vous avez certaines familles, par exemple, il y a encore récemment, devant la piscine de sa mairie, en plein centre de Paris, vous avez un campement. J'ai rencontré une femme qui avait divorcé.
Attendez,
c'est pas un constat.
Quelle est votre proposition?
Ce n'est pas un constat.
Est-ce qu'il y a un collectif, le Revers, de 30 associations, qui fait justement des propositions? Est-ce que vous les suivez?
Je vous fais le constat que M. Grégoire cache et masque.
Oui, mais
je vous propose,
par exemple.
Je vais vous dire ce que je propose, parce que j'allais vous dire ce que j'ai fait déjà, en n'étant pas au pouvoir, avec un petit moyen et des rapports de force. Et donc, j'ai rencontré une femme qui avait divorcé et dont le mari a récupéré l'appartement. On a donné la garde à cette maman et on lui a placé son enfant parce qu'elle n'avait plus de logement. Je l'ai rencontré. Je peux effectivement trouver un dispositif de prise en charge de cet enfant et de prise en charge de cette maman qui travaille à la ville de Paris, qui dort dehors et qui effectivement soit prioritaire sur le logement social.
Au-delà du cas individuel,
structurellement, vous recensez ces familles avec des enfants et des enfants mineurs. Et vous avez les moyens de les placer. L'hébergement d'urgence, qui est une compétence d'État, a été multiplié par 5 à Paris. Je vous demande de recenser les personnes qui sont hébergées dans l'hébergement d'urgence, notamment, et vous pouvez justement les mettre dans l'hébergement d'urgence pour pouvoir les accompagner pour se réinsérer. Ça, c'est un choix politique que je fais, le choix de loger dans l'hébergement d'urgence, dans le logement de transition jusqu'au logement social. Voilà ma politique. Et avec 10 milliards d'euros, on peut y arriver.
Un mot sur les agressions sexuelles dans le périscolaire.
Oui, alors, sur le parascolaire et le périscolaire. Moi, j'ai rencontré les familles, j'ai saisi le procureur, j'ai pris des rendez-vous à la chancellerie. La mairie de Paris, Madame Hidalgo, Monsieur Grégoire n'ont reçu aucune famille. 52 animateurs ont été suspendus pour des faits d'agression sexuelle et de viol dans un secteur. Donc, il y a un aspect un peu systémique. Les parents n'ont pas été reçus, ils ont été abandonnés. Les animateurs n'ont pas été vus et ça a été un abandon. Donc aujourd'hui qui sont au pouvoir, moi je
veux
dire, demain j'ai mis une procédure en place de signalement, d'action et évidemment que la collectivité prenne en charge toute la procédure. Les animateurs n'ont rien à faire dans ce type évidemment
d'activité.
Il y a un problème de recrutement. C'est tout en global. Vous êtes enseignante madame, vous savez très bien que dans la collectivité en charge du bâti, des écoles et du périscolaire, la mairie. Le bâti, la mairie de Paris a diminué de moitié l'investissement dans le bâti déjà, vous accueillez dans de bonnes conditions les enfants. Je réinvestis dans le bâti. Le périscolaire, aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce sont des animateurs qui sont recrutés du jour au lendemain, oui, sans contrôle et sans formation. Mmh. Pourquoi vous ne trouvez pas d'animateurs? Parce que l'emploi du temps est morcelé. Vous faites 10 minutes d'activité, 30 minutes à la cantine, 20 minutes le soir. Moi, je rétablis la semaine de 4 jours. Je mets le soir des études changement dirigées. Du rythme scolaire, oui. Je remets le soir l'étude dirigée avec des enseignants qui donneront des cours, qui aideront de manière individualisée, qui seront payés. Et je mets toute la journée du mercredi en périscolaire, animateur qualifié, parce que je trouverai plus facilement des animateurs qualifiés et formés pour toute une journée d'activité que du morcellement. Et donc, je mets des animateurs qualifiés et qui sont avec des activités de qualité. Rappelez-vous ce qu'on a reproché au périscolaire à Paris, c'était des activités de garderie. Oui, oui, je veux qu'il y ait des activités de qualité sur le périscolaire. Et de la même manière, on a un problème d'inclusion des enfants à Paris. Moi, je le fais par expérimentation. Des jeunes, j'ai l'Institut des jeunes aveugles. Oui. Je mets des enfants non-voyants ou aveugles qui sont ou malvoyants dans les écoles dites classiques et notamment dans l'arrondissement. Pour les accompagner, on a un manque d'AESH à Paris, et ben je demanderai aux animateurs scolaires qui seront formés et qualifiés, ils pourront être également AESH. Et vous rétablissez de l'inclusion, de la qualité, de la surveillance et du contrôle.
On parlait des adversaires.
Pardon, je suis un peu longue, mais c'est une vision. C'est un sujet important pour lequel j'ai une vision et que j'ai déjà appliqué.
On parlait de vos adversaires, donc Emmanuel Grégoire à Paris pour la gauche, hein, qui est rassemblée. Et Sarah Knafo, c'est un handicap pour vous d'avoir une candidature de droite. Sarah Knafo, vous lui tendez la main déjà, au deuxième tour?
Moi, je tends la main aux Parisiens. On a une chance historique d'avoir une alternance à Paris. C'est une chance historique. Moi, je fais confiance aux Parisiennes et aux Parisiens. Vous savez, on dit... on cristallise sur ma personnalité. On peut dire je suis clivante, agressive. On cristallise sur ma personne. Moi, je vais vous dire... C'est pas de l'agressivité ou du clivage. Moi, j'aime faire les choses. J'ai une expérience, j'ai un bilan, j'ai des résultats. J'ai aussi de la hauteur de vue sur, et une ambition pour une ville comme Paris. On peut pas... c'est sérieux.
Monsieur Bournazel, qui est un de vos adversaires ou concurrents, je sais pas, il dit vous êtes trop clivante, en fait. Il faut des personnes plus calmes, plus rassembleuses.
C'est pas avec le calme que vous changez une vie. Mais Monsieur Bournazel, c'est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde. La droite la plus bête du monde qui a permis à Paris, à la gauche, d'accéder à Paris. Seguin, Tibéri en 2001, ils ont cru se retrouver au deuxième tour. On a eu Delano et Hidalgo. C'est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde. Je suis désolée. Moi, je regrette que M. Édouard Philippe l'incarne, puisque Édouard Philippe, aujourd'hui, a choisi ce candidat pour, évidemment, me faire battre. C'est son choix.
Pourquoi ?
C'est leur choix, parce qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle et ils ne souhaitent pas que je gagne. Donc je dis aux Parisiens et aux Parisiennes, faites votre choix le premier tour. D'ailleurs, il faudra qu'ils s'en expliquent devant les Parisiens et qu'ils s'en expliquent aussi devant les habitants du Havre. Il est lui-même candidat à la mairie du Havre. On ne peut pas être cynique pour Paris et être dans l'engagement et la conviction pour le Havre ou pour la présidentielle. Donc moi, je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, cette candidature, c'est pas une candidature de témoignage ou de valeur ou de conviction. Édouard Philippe soutient un candidat et il veut qu'il aille jusqu'au bout pour nous faire perdre et faire perdre l'alternance à Paris.
C'est tout
ce que j'ai à dire.
On reviendra à la politique, bien sûr, avec Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris et ministre de la Culture aussi, il ne faut pas l'oublier. Avec Bruno Poncé, notre ami cheminot, avec Antoine Dierz, le consultant, avec Fatima Hidbounois. Restez avec nous. Il est 11h20. Rachida Dati, invité des GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les grandes gueules avec aujourd'hui dans les GG Fatima Hidbounois, Bruno Poncé, Antoine Hirsch, surtout Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, ministre de la Culture. Monsieur Bruno Poncé, question, monsieur le cheminot.
Déjà, je vais vous dire, madame Dati, je suis le fan club numéro 1 du. Enfin, je suis président du fan club de madame Hidalgo. J'aime beaucoup cette dame. Je suis un des rares en France, hein, ici. La plupart de mes collègues n'arrêtent pas de la critiquer. Et comme vous, moi, je suis d'accord avec vous. On n'est pas là pour. Voir les gens par leur aspect, parce que voilà, il faut pas être... Et moi, madame Hidalgo, j'aime beaucoup, pour plein de raisons. Mais par contre, je voulais parler aussi un peu à la ministre de la Culture et à la Parisienne. Le Louvre, c'est quand même extrêmement... Enfin, moi, réellement, hein, de savoir que c'est la directrice qui est toujours en place, qu'on puisse rentrer dans le Louvre comme ça. Moi, j'ai été au Louvre il n'y a pas très longtemps, quand je vois des carreaux cassés. dans le plus grand musée du monde, des carreaux cassés. Quand je vois que les toilettes, on dirait les toilettes de Trainspotting, ceux qui ont vu le film Trainspotting, je peux vous garantir que les toilettes, on n'y mettait pas un doigt de pied. Et en fait, je ne comprends pas, Madame Hidalgo, que quand vous êtes arrivée au
là,
départ.
Je suis pas Madame Hidalgo.
Excusez-moi, là, ça vous fait rigoler, c'est déjà pas mal. Non, mais en fait, je ne comprends pas que votre première prise de parole était de défendre cette dame, alors que vous savez que ces problèmes existent.
Vous parlez de Madame Descartes,
ces problèmes existent, vous le savez très bien.
Non, bien évidemment, ces problèmes existent, ils existent depuis 40 ans. C'est le premier musée au monde en termes de visiteurs. Ce musée, effectivement, c'est lui-même, c'est une œuvre d'art. Donc vous avez des contraintes liées justement au monument historique. Vous pouvez pas mettre une caméra comme ça dans une salle. Vous pouvez pas sécuriser un endroit aussi facilement. C'est lui-même un objet d'art historique. Après, vous me dites, j'ai défendu Madame Descartes tout de suite. Mais moi, j'ai défendu aussi les agents parce qu'ils étaient mis en cause. Rappelez-vous, on se dit, oui, ils ont peut-être pas mal surveillé.
Attendez. Sur la vidéo,
oui, mais c'est
passif sur la vidéo, quoi. Non. Vidéo qui a été diffusée cette semaine.
Bah, vous parlez des agents là.
Des agents, oui. Qui ont assisté à quelques mètres au cambriolage.
Oui, mais ils ont mis à l'abri le public. Leur mission, c'est de mettre à l'abri le public. Mais bien sûr que si, c'était l'heure d'ouverture. Si vous voyez l'image, vous voyez bien que les gens rentrent. D'accord, ok.
Sur toutes les images, il n'y a personne dans la salle.
Vous avez une arrivée du public, c'est au moment de l'ouverture. Ils refont rebrousser le public. C'est à l'ouverture, vous voyez très bien.
On voit
de longues
minutes des agents qui regardent en train de.
Regardez bien les images. Je suis dedans. Donc, on a voulu mettre en cause les agents. Ils étaient au complet. Les systèmes d'alarme ont fonctionné. Il y a eu des défaillances et des dysfonctionnements. Sinon, on n'aurait pas eu le braquage. Moi, j'ai soutenu, évidemment, le personnel. Ensuite, vous me dites, oui, la directrice était encore en place. Je ne pouvais pas décapiter cet établissement à la veille de Noël. On a battu un record historique de nombre de visiteurs à la fin de l'année. Je m'explique. Ensuite, il fallait savoir où étaient les dysfonctionnements. On a un problème de gouvernance, d'organisation, on a un sujet aussi de sécurisation de l'établissement.
Ah,
et à la faveur, pardon du terme, de ce braquage, qu'est-ce que j'ai fait avec mon collègue du ministère de l'Intérieur? On a fait une instruction pour l'ensemble des musées de France de pouvoir nous recenser là où il y a des objets d'art de valeur, où les musées ne sont pas forcément sécurisés. Attendez, je termine.
400 000 euros dans une cuisine, même puis, juste ça, aurait dû vous alerter.
Ouais, attendez, soyez sur l'écume, je vous parle.
Il y a des gens dans le musée qui vous ont alerté. Mais on dit, attention, Madame Dattier, il y a des sujets. Et en fait, quand ça arrive, je comprends. Vous ne voulez pas décapiter. Il y a quand même une grève le 15 décembre à cause de tout ça.
Oui, alors attendez. Et donc, il faut savoir que les musées, ils sont en autonomie de gestion. Vous le savez très bien. Ils sont en autonomie. Le ministère de la Culture est en tutelle, budgétaire, nomination, mais ils sont en autonomie. Et donc, bien sûr qu'il y a une réorganisation en cours. Et donc, j'ai pas voulu décapiter tout de suite. Les syndicats... Attendez. Les syndicats que vous connaissez, je discute avec eux. D'ailleurs, ça se passe très bien entre eux. J'ai commencé à répondre à leurs revendications qui sont légitimes. Je les entends et je les reçois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mise en cause personnelle. D'autres pourraient le faire. Ils sont responsables. Ils savent qu'il y a un enjeu. Et donc là, nous sommes sur une réorganisation en cours. Les décisions sont lourdes et elles vont être prises.
Mais en attendant, est-ce que le Louvre a été quand même davantage sécurisé? Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'abri d'un nouveau braquage?
Non, mais... Là, parce que quand vous lancez un marché public c'est très long. Et donc les études. Donc on a un grand projet pour tout refaire ce Louvre qui est très vétuste, qui est très dégradé. Et évidemment, il y a des failles, forcément. Et quand vous lancez un marché public, c'est déjà 6 mois entre le lancement et le résultat de l'entreprise sélectionnée. Et après, il faut encore du temps. Donc, c'est aussi les contraintes administratives. Et donc là, on est en train de lancer. Les études ont été lancées. Les sécurisations sont en cours. Les travaux de sécurisation sont en cours. Et sur la gouvernance, le changement est en cours.
Oui, mais lorsqu'on lit Le Canard Enchaîné, par exemple, qui avait révélé plusieurs choses, on avait plutôt le sentiment des manuscrits qui ont pris l'eau. Enfin, on a l'impression que parfois, ils n'étaient pas entendus au bon bon moment. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu aussi minimum un retard au démarrage, non?
Parce que depuis 40 ans, vous savez, les fuites dont on parle et tout, oui. Moi j'ai visité d'autres musées nationaux, vous avez les sceaux au milieu de la salle. Moi, pourquoi j'ai voulu qu'on lance et que le président de la République a lancé ce grand projet Louvre Renaissance? Parce que ce grand musée, ce plus bel écrin du monde, en termes d'œuvres d'art, de muséographie et autres, il est important justement de le renouveler. Moi, je pense à la sécurisation des œuvres d'art, mais je pense aussi aux conditions de travail des agents dans ce grand musée.
Bon, alors, on voudrait vous montrer une image, Antoine, simplement après je te donne la parole, mais cette image-là, qui quand même fait beaucoup réagir, du président Tom Cruise, avec ses lunettes d'aviateur. Vous avez apprécié son... Vous pensez le look et le discours qui était assez punchy pour dire non à Trump, on ne peut pas laisser le président américain tout faire, tout dire.
C'est assez grave pour dire que ce qu'il a dit... ce que le président de la République a dit, c'est de la fermeté, c'est de la clarté et en toute transparence. Il n'a jamais évolué là-dessus. L'Europe est une puissance, la France est une puissance, il défend la puissance, la souveraineté française. Ce sont les termes. Il faut retenir ça. Voilà.
D'accord. Et les lunettes ?
Non mais, attendez, mais si...
On peut en trouver d'autres à ce moment-là.
Non, mais c'est pas ça.
Pour éviter de trop attirer l'attention sur la forme. Il a un problème à l'œil.
Qu'est-ce qu'il veut? Vous voulez qu'il me mette
un bandeau? Ça rappellera d'autres personnages.
On a connu une Rachida Dati plus spontanée. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment la Rachida Dati qu'on a connue? Je vais vous le dire. Tout le monde, quand ils ont vu sur Internet qu'il y avait Rachida Dati dans les grandes gueules, j'ai plein de monde qui me dit, tu dis bonjour, etc. Voilà. Et là, parce que vous incarniez quelque chose de différent en politique. Et la ministre de Macron, la candidate à Paris, assez calme, modérée, avec les éléments de langage un peu courus d'avance.
De quoi?
Alors que d'habitude, Rachida Dati, c'est beaucoup plus punchy. Est-ce qu'on est obligé d'être discrète, de se mouler dans un truc modéré, calme, pour être ministre de Macron et candidate à Paris?
Non, mais alors, dites-moi ce qui est modéré, calme.
Sur Paris, je vais vous le dire. Paris, c'est je suis pas parisien, c'est également la capitale de la France, avec un enjeu majeur. Et donc moi, je vois une femme spontanée, on lui connaît des colères, etc. Et donc j'attends un programme, des propositions pour Paris. Je vais demander, je sais pas. Je pense honnêtement qu'il faudrait poser la question.
Moi, je vous dire
tous ces fonctionnaires parisiens.
Non, posez-moi la question sur le projet de fond. Quelles sont les priorités?
Quelle est la différence entre vous et les autres? Pourquoi faudrait choisir Rachida Dati pour son côté spontané et pourquoi vous seriez en mesure de régler les problèmes de sécurité, de propreté plus que les autres? J'arrive pas à l'identifier.
Parce qu'il y a de la crédibilité. Je vais vous dire, je vais réorienter les priorités. Une ville propre. C'est le premier geste écologique, hein, pour ceux qui se disent écologique. Déjà, si vous voulez être écologique, la ville, elle doit être propre.
Mais pourquoi vous y arriveriez mieux que les autres?
Je vais vous dire. C'est bien de dire j'ai une ville propre. Ils le font comment, les autres? Moi, je vais vous dire comment je vais le faire. Vous savez, j'ai fait une tournée avec les éboueurs. Aujourd'hui, il y a un problème de coordination et d'organisation. Aujourd'hui, quand vous collectez les poubelles, il y a 4 poubelles sur le trottoir, vous en prenez 2. Et les autres vont revenir chercher les 2 autres. Et celui qui nettoie le trottoir n'est pas le même que celui qui collecte la poubelle. Celui qui ramasse les encombrants n'est pas le même que celui qui vide la poubelle qui est fixe. Et donc, vous avez un sentiment que la ville est tout le temps sale. Moi, je vais vous dire, demain, je suis maire de Paris, je réorganise le service de propreté. Vous savez combien ça coûte la propreté aujourd'hui? Il n'y en a pas un qui le dit. C'est 800 millions d'euros. Oui. Vous en voyez le résultat? Non. Et ben, 2/3 administratifs, 1/3 sur le terrain. J'inverse la tendance. Tout le monde sur le terrain et je réduis l'administration.
Sur la sécurité. Sur la sécurité.
Monsieur Grégoire et Monsieur Belloir ne veulent pas de police. Ils veulent pas de policiers tout court et ils veulent pas de policiers armés, formés.
Vous les armez, vous?
Et armés, formés, évidemment équipés pour l'équipement qui va avec. Pour cette gauche, parce qu'il s'est allié à LFI, parce qu'il y a Daniel Simonet et Laurent Sorel, Lucie Castet, bonne gestionnaire, et donc ils ne veulent pas armer. Pour eux, une police municipale formée, équipée, armée. Il y en aura 5 000, c'est financé, parce que pour la gauche, la police tue. Pour moi, la police protège.
Voilà.
Je l'articulerai avec la vidéoprotection à Pet Camp 1000 aujourd'hui. Je doublerai le nombre de caméras de vidéoprotection sur l'espace public parisien. Ensuite, le chaos dans l'espace public. Adoption du plan de circulation. J'adopterai un plan de circulation où chacun aura sa place. Ça sera pas la bagarre des uns contre les autres. La trottinette contre la poussette, la voiture contre le vélo et le piéton perdu au milieu de tout ça. Oui. Et puis une bonne gestion. 10 milliards de budget, 12 milliards de dettes. Et donc, une bonne gestion. Ma méthode, déjà, la ville de Paris, vous savez, l'hôtel de ville coûte 1 350 € par an et par habitant, uniquement en coût de fonctionnement. Ça ne sert pas aux Parisiens. Donc, je revois, elle est suradministrée. On a perdu 136 000 habitants, on a augmenté 10 000 agents. Je diminue, évidemment, le nombre d'agents. Je ne remplace pas forcément tous les départs en retraite. Je mets, évidemment, conformément à la loi, les agents aux 35 heures, ils sont à moins de 32 aujourd'hui. Et puis, également, sur les finances. Moi, je revois, je vais vous dire les sources d'économie. Parce que les autres disent, allez, on diminue 4 milliards, 10 milliards, comment ? Moi, je vais vous dire, sur une mandature, c'est entre 600 millions et 1 milliard. C'est, on arrête les préemptions du parc privé. On arrête les subventions clientélistes. Et évidemment, on revoit évidemment sur l'administration de la mairie. J'ai évidemment un projet très clair.
Si vous pouvez le mener travailler au bout, si vous pouvez financer. Le mener au bout, puisque vous avez votre procès qui arrive dans l'affaire Renault en septembre 2026, là, donc il doit y avoir un scénario aussi. Vous avez envisagé si vous êtes condamné et empêché de continuer.
Je suis très à l'aise là-dessus, parce que le fan de Monsieur Hidalgo,
fan de Madame Hidalgo,
parce que moi ça répond à la question qu'on avait en coulisses. Moi, je n'ai jamais, parce que j'ai jamais voulu que ma probité soit mise en cause. Je veux être libre, y compris du parti politique. J'ai toujours travaillé à côté de mes mandats. J'étais avocate.
Mais il y a un risque judiciaire quand même.
Non. C'est un contrat de droit privé. Il n'y a pas d'argent public. Donc, ce que vous imaginez, je ne le risque pas.
Non, mais il y a les honoraires. Et puis ensuite, il y a l'affaire Renault. Il y a deux choses.
Non, c'est la même chose. C'est les honoraires d'un contrat d'avocat pour Renault. J'ai soutenu une entreprise française dans des implantations dans des pays tiers.
Vous ne serez pas condamné.
Non, oui, dans des pays tiers. Ça, c'est une chose. Je rappelle aux fans de Madame Hidalgo, il y a eu des perquisitions, il y a une enquête qui est ouverte sur l'utilisation de l'argent public à des fins privées. Monsieur Lejoindre a payé les restaurants, ses vacances personnelles avec l'argent de la mairie. Madame Hidalgo, de la même manière. Il y a eu des perquisitions, une enquête est ouverte. Donc moi, je veux bien qu'on me reproche. La terre entière.
Parce que votre procès arrive en septembre.
La terre entière.
Est-ce que c'est une épée de Damoclès qui
pèse sur
votre campagne ?
Très à l'aise. Vous savez, depuis que je suis née, c'est combat après combat. Là, je dis aux Parisiennes, il y a une chance historique de changer la vie à Paris. J'ai une équipe expérimentée, j'ai un projet, et aujourd'hui, on a une dynamique.
Parce que vous avez dit, après on va oublier, vous avez dit que vous quitteriez le ministère de la Culture pour faire campagne.
Oui.
Quel est le calendrier précis? Parce que là,
je vous le dirai, je reviendrai chez vous le dire.
Merci Rachida Dati, merci d'avoir été avec nous, candidate à la mairie de Paris, ministre de la Culture. Il est midi moins 20, suite et fin des GG dans un instant.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, il est midi moins le quart. On va revenir maintenant sur Rachida Dati face au GG parce que ça provoque pas mal de commentaires, bien évidemment. Et on va en parler, nous, dans les grandes gueules, avec Bruno Poncet, Antoine Dirt et Fatima Hidbounois. Ce qui était amusant, c'est qu'il l'a piqué au vif. L'ami Antoine Dirce, Rachida Dati, en disant, moi j'avais envie de retrouver la Rachida Dati punchy, qui aime les combats au chaos, et tu l'as piqué là.
Ouais, mais parce que sincèrement, je l'ai trouvé très très modéré, très discours classique, propre sur elle.
Macroniste.
Alors, macroniste, oui c'est ça. Alors,
c'était macronisé.
Elle est ministre de Macron, donc un peu macronisée, et puis en plus, elle est candidate à Paris, où l'électorat est très modéré, un peu centre-gauche, etc. Mais moi, je lui pose sincèrement une question. Est-ce que les gens vont aimer la Rachida Dati calme? Les gens autour de moi, ils adorent la Rachida Dati.
Ouais, mais oui, mais c'est les choses. Oui, mais je pense que c'est une stratégie. Si tu veux, la Rachida Dati punchy ou clivante, ça fait son personnage, donc elle n'a pas besoin d'en rajouter. En revanche, à Paris, il y a un électorat, à mon avis, modéré, effectivement, qui, à mon avis, en a un peu marre de la gauche depuis 25 ans. Il y a besoin d'alternance. Mais d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. À un moment donné, il faut faire l'alternance. Mais peut-être qu'ils peuvent parfois être un peu, ces gens-là, un peu frileux face à une Dati un peu bulldozer. Donc peut-être, à mon avis, elle tente de rassurer, notamment des gens qui pourraient voter Bournazel. qui est le candidat centriste. Oui. Donc je crois qu'il y a de la stratégie. Et puis elle est ministre, si tu veux, elle est ministre. Donc quand t'es ministre, bah, t'as une parole particulière à porter.
Et je pense que ça l'handicap finalement. C'était tu les conditions pour pouvoir être soutenu, si j'ai bien compris, par les macronistes. Mais aujourd'hui, ça l'handicap parce qu'elle a pas la parole libre.
De toute façon, elle va devoir quitter. Elle a dit qu'elle quitterait. Elle n'a pas voulu dire quand. Hein.
Non, mais après, ce qui est incroyable quand même, c'est on a trouvé comme la Rachida Dati.
Ce qu'il faut, c'est qu'elle, quand elle vient dans les médias comme ça, c'est qu'elle fasse part de son programme aux électeurs. Après les elle les gardera pour les débats.
Elle a apporté, parce que ce qu'elle a dit sur Bournazel, il incarne physiquement la droite du monde. C'est quand même.
C'est dur.
C'est dur.
Edouard Philippe, pareil.
Après, elle faisait des réponses, elle est en train d'exposer son truc. Mais en fait, moi, ce qui m'a interpellé chez elle, c'est qu'elle a gardé ce côté très mauvaise foi. Quand elle nous explique qu'il y avait des camps dans le 7e arrondissement, c'est exceptionnel. Enfin, moi, les camps, je passe régulièrement à côté.
Détrompe-toi. On en avait parlé ici même il y a quelques années. Ce sont dans les quartiers riche et chic, et d'ailleurs c'est assez logique, il y a le plus SDF à Paris.
Oui, c'est logique.
C'est logique, ils viennent là où il y a de l'argent et peut-être...
Sauf que c'est là que les gens sont plus radins.
Il y avait une étude très sérieuse qui avait démontré qu'il y avait plus de SDF dans le 16e et le
7e,
parle pour des gens qui connaissent Paris, mais 16e, 17e, que dans le 19e ou le 20e.
Oui, mais Olivier, on parlait pas de ça. On parlait des camps que tu as, Porte de Chapelle et des crackers. Parce que c'est ça, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas... Il y a des SDF et ça,
c'est pas ta faute.
Non, mais par contre, c'est ça qui est extraordinaire.
C'est pas parce qu'il y a des craqueurs à des grades.
Non, mais c'est qu'elle n'a pas,
Je pense que les scènes apocalyptiques, je pèse mes mots, que tu vois à Porte de la Chapelle, à Jaurès,
à la Villette.
Oui, mais ça, c'est la voie publique, c'est le ministère de l'Intérieur.
Laissez-moi finir. Je pense que ces scènes-là, si tu les avais
devant les
16e ou dans certains, ça ne resterait pas très longtemps.
On est d'accord.
Voilà.
Mais ça, c'est pas de sa faute. Ça, c'est un problème.
Mais je parle à toi. Tu disais il y en a plus.
Oui, des SDF, il y en a plus.
Mais en tout cas pour le crack.
Effectivement, la colline du crack n'est pas dans le 7e ni dans le 16e.
Non, mais par contre, elle nous a déroulé son programme et tout. Mais c'est vrai que c'est. En fait, moi je trouve que c'est tellement facile. Et moi je l'ai souvent été aussi quand en opposition avec le pouvoir en place, c'est tellement facile parce qu'en fait, t'as qu'à dire qu'ils font que de la merde et toi tu feras mieux. Après, Antoine a posé la vraie question. C'est avec quels moyens ce qu'elle fera. Elle nous explique qu'elle va mettre 5000 policiers, 5000 machins et tout. Ok. Mais ta vie est déjà sur.
Travailler davantage les agents de la ville de Paris.
Ça j'entends. Si t'as deux tiers, un tiers.
Qu'il y a des agents qui sont en 32 heures. Attends, mais pardon, excuse-moi. Elle nous dit, il y a des agents à la mairie de Paris qui sont en
29 heures.
Non, mais c'est illégal surtout. La loi, c'est 35 heures. Et je sais d'ailleurs qu'Anne Hidalgo s'était battue parce qu'elle-même, elle trouvait que c'était pas
illégal.
Olivier,
c'est un accord d'entreprise, c'est pas illégal.
Il y a les Français qui coûtent ça, qui bossent comme des chiens et qui disent donc, un fonctionnaire à la ville de Paris, il travaille que 32 heures.
Non, mais c'est pas vrai. Non, mais désolé, les fonctionnaires. Non, mais il faut arrêter aussi. Non, Olivier, tu peux pas dire ça, franchement. Bah, ceux qui bossent vraiment, ceux qui sont dans les jardins, ceux qui sont en train de ramasser les poubelles et tout, s'il te plaît.
Je te dis, il y a des agents à la mairie de Paris, et c'est pas ceux forcément qui ramassent les poubelles.
On est d'accord.
Qui ont 32 heures.
Le problème,
il y a des gens qui bossent 60 heures par semaine qui doivent se dire, c'est quoi ce pays?
À mon avis, d'avoir un taux d'encadrement à la mairie de Paris.
On a Patrick. Patrick qui voulait poser une question d'ailleurs tout à l'heure à Rachida Dati, mais qui est fonctionnaire territorial. Bonjour Patrick, vous avez écouté Rachida Dati. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bienvenue.
Eh ben écoutez, j'ai écouté ce qu'elle propose. Faudra voir sur le fait, mais là, je dois dire qu'actuellement Paris n'est plus attractif, notamment pour les collaborateurs et pour les employés de la ville de Paris. Quoi, au niveau salarial, très bas. C'est bien joli de vouloir remettre les gens aux 35 heures, mais il va falloir que ça suive au niveau salarial aussi.
Moi, je vois cette année, c'est 35 heures payées 35. Effectivement, faut dans ce cas-là, il y a un petit coup de pouce.
À côté de ça, il faudra un coup de pouce supplémentaire. Je veux dire, nous, ça fait 3 ans que l'indice il a pas bougé. Cette année, on a perdu 1% sur nos primes de fin d'année, voire sur l'année prochaine, sur les primes actuelles. Il y a des secteurs qui sont en manque de personnel incroyable et qui sont en plein, comme la petite enfance, par exemple. La police municipale, actuellement, c'est bien joli de vouloir remettre et d'armer la police municipale, mais actuellement, on a des passerelles pour demander dans les autres services pour pouvoir aller compléter les agents de la police municipale. Vous vous rendez compte? Donc voilà, c'est pareil. Alors, le 7e arrondissement, elle peut faire vanter le 7e arrondissement et qu'il est bien géré, mais que, comme vous avez dit tout à l'heure, si elle allait dans le 18e arrondissement, je suis sûr qu'elle ferait peut-être pas la même chose. Donc voilà. Donc moi, j'attends de voir, mais franchement, c'est pas joyeux ce qu'elle nous propose.
Après, si, dans ce qu'elle a proposé, que je trouve important, et j'aimerais que tout le monde s'en saisisse, c'est les familles, la problématique des familles, parce que là,
qui
partent. À partir du moment où tu as deux enfants, la question elle se pose là.
Ah oui.
Et dit attends, j'ai deux enfants.
F3,
finalement, les logements, se loger pour si tu veux qu'ils aient chacun leur chambre ou quelque chose comme F4. Ça, t'as un garçon, une fille, commence à grandir, tu poses cette question. T'as pas d'autre choix que t'éloigner de plus en plus, petite banlieue après la grande banlieue, et finalement encore plus loin, et ça augmente les prix ailleurs. Ouais. Parce que vous voyez Bordeaux, à un moment il y a plein de Parisiens qui sont partis à Bordeaux. Mmh. Mais résultat, ça a fait flamber les prix plus loin. Donc, les problématiques parisiennes, par ricochet, par effet domino, c'est des problématiques qu'on va retrouver, et notamment la question du logement et la question de où vivre, faire vivre sa famille. Cette question du nid, quoi. Hein, quand on a une famille,
merci,
on a besoin d'un nid. Parce qu'après, ils sont bien gentils de nous dire faites des enfants. Mais si la question de où se loger après quand on a des enfants, elle est primordiale.
Le problème
là,
aujourd'hui,
parisien.
Quand tu vois les priorités des riverains dans les grandes villes, c'est qu'en fait, c'est coincé entre à la fois ce qui est de la prérogative nationale et ce qui est de la prérogative locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sécurité devient quasiment la priorité.
C'est pour ça que toutes les mairies ont des polices municipales.
C'est
maintenant.
Ça. Et, or, il y a la police municipale, ce que peut faire la police municipale, mais il y a ensuite tout ce que doit faire la police nationale. Et puis après, ils sont coincés par les questions budgétaires, tout ce possible. On nous a enlevé
capitale,
des sources.
C'est
de
la ville la plus riche.
Non, mais je parle
10 milliards de budget,
d'argent. D'accord. Mais je parle globalement de bon nombre de villes qui se trouvent coincées aujourd'hui à cause du manque de budget, parce qu'on leur a transféré beaucoup de dépenses. On leur a enlevé beaucoup de recettes.
C'est pas le problème de la capitale.
Sûrement. C'est ce qu'elle a dit. Il y a un problème de ressources humaines. Merci à Patrick d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans les GG, dans les grandes gueules. Demain, nous serons avec Emmanuel de Villiers, l'entrepreneur, Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Joël Dagosséry, la coach de vie, et la ministre des comptes publics, madame Amélie de Montchalin.
Alors, j'attends avec impatience la rencontre entre Mourad Boudjelal, qui est très énervé en ce moment, et la ministre du budget. Hein. Maintenant, on appelle ça compte public, mais avant, c'était budget. Madame Montchalin, c'est elle qui a pondu le budget, là, qui va passer au 49.3.
Avec Emmanuel de Villiers, Joël Dagosséry, qui veut quitter la France. Elle va passer un bon moment, madame Montchalin, je pense.